Alors nous poursuivons ce matin notre série de prédications sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Et comme le disait tout à l'heure Mathias, on a l'impression que parfois à l'église ça se répète. Mais justement, une série, ça permet d'éviter un petit peu les répétitions ou de dire toujours la même chose, que le prédicateur parle toujours de ses dadas. Et donc, on suit un texte et on arrive à des textes un peu étranges ou dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Donc, c'est une sorte de sécurité, les séries. On suit la Bible. Et donc, cette série sur l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, s'adresse à l'Église qui est à Corinthe, Corinthe qui est une ville en Grèce, et il écrit cette lettre alors qu'il est à Éphèse, qui prend un petit peu son temps, et qu'il a reçu de la part d'amis porteurs de lettres des nouvelles petit peu mitigé de la part de l'église de Corinthe. Des nouvelles mitigées, c'est un euphémisme. Ça va pas très bien au niveau de la vie de la communauté. Alors il prend sa plume et son papyrus et il leur répond et il commence sa lettre comme il le faut, avec des salutations à l'église qui est à Corinthe, etc. Et on sent déjà quand même que dans ses salutations, il a envie de dire des choses. Et il va le faire rapidement. Et dès que les salutations sont terminées, Paul rentre dans le vif du sujet, ou on va dire dans le lard des Corinthiens. Alors, je rappelle ce que j'ai dit la fois dernière, je crois que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, concernant cette série sur l'épître aux Corinthiens, je ne cherche pas à faire la comparaison entre l'église de Corinthe et l'église de Cannes. Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé serait tout à fait fortuite, ou alors une manifestation du Saint-Esprit. Alors, ceci étant, il n'est pas inutile de s'adapter sur cette église avec des gros problèmes pour prévenir peut-être quelques problèmes qui ne sont pas encore apparus, mais qui pourraient toujours venir. Et donc, à titre préventif, nous lisons 1 Corinthiens 1, verset 10, et puis on se rappelle Corinthe comme une fiche touristique là, du syndicat d'initiative, comme on disait à l'époque, pour Corinthe. Corinthe, sa ville, ses commerces, elle était une ville extrêmement commerçante, l'isthme de Corinthe, il y avait un passage navigable là. Corinthe, son église du 1er siècle, et oui, c'est une église naissante, hein. Jésus est mort et ressuscité il y a 20 ans. Donc c'est l'église du 1er siècle qui doit s'adapter. Puis Corinthe, son syncrétisme, il y avait un petit peu de tout comme divinité, comme culte, etc. Et il faut faire, on va pas dire sa place là-dedans, mais il faut faire son témoignage chrétien là-dedans, dans ce syncrétisme. Et on lit ensemble. Alors c'est un peu... c'est un peu un fin comme lettrage, il faudra que je change ça. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais, vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul. Ou pour moi, c'est Apollos. Ou pour moi, c'est Pierre. Ou encore, pour moi, c'est Christ. Voyons, Christ serait-il divisé ? Paul aurait-il été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne, car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Et donc, à l'issue de cette lecture, on a bien compris qu'il y avait des problèmes à Corinthe et des problèmes de division. Et le mot « discorde » revient avec force et avec beaucoup de tristesse. « Discorde » du grec « schismata », le grec dans lequel le Nouveau Testament a été écrit. « Schismata » qui a donné « schisme » en français. Je me souviens que quand on était en Belgique, j'ai vécu 25 ans en Belgique et j'ai commencé un ministère là, il y avait dans la région de Charleroi un pasteur qui, et je le rencontre, et il me dit « Ouais, on a vécu un schisme dans l'église. » « Vous étiez combien dans l'église ?»« 8. » 4 d'un côté, non, je pense même que c'était 5 d'un côté, 3 de l'autre, un truc comme ça. Ils n'avaient même pas pu faire moitié-moitié. Mais il semble pas qu'il y ait encore des schismes, un schisme à Corinthe, mais plutôt des déchirures. Comme dans les tissus de la parabole du tissu neuf et ancien. Vous savez, on ne met pas du tissu neuf dans les vêtements avec des tissus anciens, parce que sinon, les neufs se déchirent, etc. Ou l'ancien, je sais plus. Mais on peut parler d'accro, de déchirure. On s'accroche dans l'église de Corinthe, les uns avec les autres. On se prend le chou. Ça n'explose pas encore, mais il y a des petites étincelles. On est encore ensemble, mais l'unité est menacée par des prises, des position des uns et des autres qui se rangent derrière un leader, comme on le voit au verset 12, chacun de vous dit « moi je suis de… » Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Et on pourrait résumer la situation à Corinthe en parlant d'un climat, un climat de parti, un climat partisan. On prend parti les uns contre les autres et on considère son parti comme le détenteur absolu de la vérité et les autres comme des frères égarés. Et il est intéressant que ce genre d'attitude venait vraiment de la société de l'époque. Dans le monde grec, les philosophes et en particulier les sophistes rivalisaient d'éloquence pour attirer les disciples et ils n'hésitaient pas à se vanter de leur supériorité par rapport aux autres. Leurs disciples étaient complètement acquis à leur cause et vénéraient leur champion. Ils vouaient une admiration sans borne à leur maître et dénigraient systématiquement les partisans des autres maîtres. C'était la règle du jeu dans le monde. Sans être tout à fait un jeu, puisque chacun avait la conviction qu'en se mettant à l'école de tel ou tel orateur, il parviendra à s'élever, à acquérir la sagesse, à s'élever au-dessus du commun des mortels et parvenir à la connaissance, cette connaissance qui libère. Pour les partisans, c'était une question de vie ou de mort. Alors, l'église de Corinthe, ils avaient fait un petit peu du copier-coller avec un vernis chrétien, spirituel, dans le vocabulaire en tout cas. Mais il y avait un même climat de rivalité entre les parties. Et même s'ils se réclamaient de grands noms comme Paul, Apollos, Pierre ou même de Christ, le climat est le même que dans le monde grec. C'est un climat de parti, de partisans, qui est très loin de ce qu'on peut attendre de l'Église de Jésus-Christ. Et de dire « moi je suis de », ça revient à dire « moi je suis dans le vrai ». Où on est plus spirituel, où les plus spirituels, c'est nous. Ou comme je l'ai déjà entendu dans le pays de Voltaire, c'est nous qu'on est les meilleurs. Un climat tout à fait terrible. Et Paul leur écrit en espérant que sa lettre sera lu en public dans l'église de Corinthe. C'est ce qui se passait à l'époque. Les lettres étaient lues. Les églises de Corinthe et les églises alentours. Et puis, encore plus d'églises. Pour que l'église de Corinthe retrouve un petit peu d'unité. Pourtant, ça commence par des partisans qui se réclament de Paul. De Paul de Tarse, de lui-même, alors. Il devrait être content que certains s'appellent des Pauliniens, des partisans de Paul, mais pour Paul, c'est un échec qu'on se réclame de lui. Alors, il est intéressant de noter que ce groupe se réclame du fondateur de l'Église, parce que c'est Paul qui a fondé l'Église de Corinthe quelques années plus tôt, et on peut penser que ces gens qui se réclament de Paul pensent faire preuve de fidélité en se réclamant de Paul. Nous, on est de Paul, le fondateur de l'Église de Corinthe. Des gens fidèles au passé, mais peut-être un petit peu coincés dans le passé, que j'appellerais les nostalgiques, qui se disaient peut-être cette phrase qui tue toute progression, tout développement, toute ouverture, que vous avez certainement déjà entendue ou même peut-être prononcée, c'était mieux avant. Les nostalgiques. Le parti de Paul, les nostalgiques du passé, les anciens du parti, les dinosaures, les gardiens du temple. Et le deuxième groupe, moi je suis d'Apollos. Nous, on est d'Apollos. Alors c'est qui Apollos ? Eh bien, il se réclame d'un serviteur de Dieu qui est venu après Paul, qui a arrosé là où Paul avait semé. Et le Nouveau Testament ne révèle aucun conflit entre Apollos et Paul. Au contraire, c'est Paul qui a encouragé Apollos à aller à Corinthe. Il n'y a aucune rivalité entre ces deux hommes, mais à Corinthe, on aime les rivalités, on aime l'éloquence, surtout on aime ceux qui parlent bien et qui peuvent attirer des disciples par leur verbe, et Apollos est un de ceux-là, est un homme éloquent, bien éduqué, il vient d'Alexandrie, un des centres intellectuels les plus réputés de l'Empire. Il est versé dans les Écritures. Il y a l'évangéliste Luc qui dit de lui qu'il était puissant dans les Écritures, c'est-à-dire en exégèse biblique, Apollos. Et donc, les Corinthiens l'avaient élevé, contre son gré bien sûr, comme leur champion. Nous, on est d'Apollos. Et pour nous aujourd'hui, ce parti d'Apollos vient peut-être nous mettre en garde contre cette tendance à admirer à l'extrême, vous vous demandez ce que je vais mettre là, ceux qui parlent bien ou ceux qui ont de la tchatche, les amoureux de la tchatche, du bagou, qui ont du bagou, qui ont du verbe. J'ai été frappé de voir qu'aux États-Unis il y a un ami qui a... Il est où, Fabrice? Il est juste... Bon, tu ne me démentiras pas qu'on a parfois tendance, les églises, à mettre en avant des personnalités. Et de plus en plus. De grands orateurs, de bons orateurs, certes, mais de vraiment les mettre en avant. Et ça frise le culte de la personnalité. Et on n'est peut-être pas à l'abri en France aussi, parce que on a aussi une certaine attirance vers ceux qui ont une certaine éloquence, même si culturellement on la définit autrement. Et ce risque existe dans l'Église, cela d'autant plus que l'enseignement de la Bible et la prédication sont des domaines importants dans la foi chrétienne. Et donc, c'est donc un défi pour nous d'à la fois reconnaître le bon enseignement de la parole sans tomber dans le culte de la personnalité de l'enseignant ou du leader spirituel, quel qu'il soit. Et on voit aussi, avec le développement des réseaux sociaux, etc., de faire attention. Et ça va dans les deux sens, des auditeurs comme du prédicateur, de faire attention au culte de la personnalité. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de machin chose bazar. Alors, il n'y a pas de solution, simplement une vigilance personnelle. Et puis, il y a ceux qui disent, moi, je suis de Pierre. Alors, quel genre de parti, Pierre ? Il faut savoir que Pierre n'a jamais mis les pieds à Corinthe, hein, d'après nos informations. Il est à Jérusalem, et il, dans l'église de Jérusalem, et il joue un rôle très important du côté des chrétiens d'origine juive. Et donc les chrétiens d'origine juive de Corinthe se réclament très probablement de lui en espérant trouver un peu de soutien avec Pierre pour avoir du poids dans le débat et pour faire passer des idées un petit peu, je les ai appelées tradilégalistes. On est chrétien, mais il faut garder les traditions juives, et il faut imposer cela aux nouveaux convertis qui seraient du monde païen. Traditionnel, bien que les traditions, il y a quelque chose de bon, vous voyez ce que je veux dire, traditionnaliste, figé, légaliste, il faut que, c'est Jésus plus les règles, Jésus plus les lois. Il faut garder les traditions juives même en étant chrétien, et on a Pierre avec nous, c'est notre champion. Et puis, dernier parti, en présence de ceux qui disent « Moi, je suis de Christ ». Nous, on n'est ni de Paul, ni d'Apollos, ni de Pierre. Nous, on est de Christ. Et à première vue, ce parti paraît très bien quand même. Je veux dire, on est de Christ, on est du Seigneur, très spirituel. Mais Paul le met au même niveau que les autres partis parce que, en se réclamant du Christ, il s'en accapare. Et semblent dire que les autres parties ne sont pas de Christ. Un commentateur le dit bien, ouvrez les guillemets, leur tort n'était pas de dire qu'ils appartenaient à Christ, mais de se comporter comme si Christ leur appartenait. Leur tort n'était pas de dire qu'ils appartenaient à Christ, mais de se comporter comme si le Christ leur appartenait. Et ce n'est pas le parti le moins dangereux, parce que dès qu'on commence à nier que le Christ puisse être aussi chez les autres, on rentre dans un comportement sectaire. Nous, on a la vérité et pas vous. Nous, on est les super spirituels et vous, vous êtes... on ne sait pas quoi. Et c'est ce genre d'attitude qui finit par déchirer l'Église de Christ. Et ça me fait penser à cette dénomination chrétienne qui a choisi de s'appeler justement l'Église de Christ. Alors c'est maladroit, quand même. Je ne sais rien de cette dénomination, mais je me dis que c'est maladroit. Est-ce que cela veut dire que les autres églises ne sont pas de Christ ? En tout cas, ça le suggère fortement. Alors, à la fin de cette énumération, j'ai envie de vous proposer une question. Pour quel parti aimeriez-vous voter ? Les nostalgiques, les amoureux de la tchatch, les tradis légalistes, les super spirituels ? Alors, évidemment, on dit aucun de ces quatre-là, après toutes les explications, mais quand les choses commencent à tourner mal, en cas de conflit, quand il y a un malaise, de quel parti vous vous sentiriez le plus proche ? À quel parti accorderiez-vous vos suffrages ? Le parti des nostalgiques du passé ? Moi, je suis de Paul. Le parti des beaux-parleurs ? Moi, je suis d'Apollos. Le parti des légalistes qui trouvent des règles, que les règles sont plus importantes que la grâce ? Moi, je suis de Pierre, ou le parti des super-spirituels qui pensent posséder à eux seuls toute la vérité, rien que la vérité. Moi, je suis de Christ. Alors, il ne s'agit pas de choisir, évidemment, un parti, mais peut-être de voir où se situerait pour chacun le risque de développer un esprit partisan. Alors, il y a bien d'autres partis possibles, mais je me limite à ce que Paul dit là. D'autres parties possibles, et l'histoire de l'Église nous montre qu'il y a une grande imagination pour créer des parties. Alors, il y a quand même une réponse qui est donnée par Paul, les réponses de Paul à ce climat partisan. Et il semble qu'il y ait deux réponses. Une réponse d'abord d'ordre théologique, avec... un peu plus loin, au chapitre 2, ce passage bien connu, où il dit « Paul a semé, non, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Le plus important, c'est la croissance. Et on pourrait discuter des heures pour savoir quelle est l'activité la plus importante, la plantation ou l'arrosage, ou l'évangélisation ou la louange. le ménage ou l'action sociale. Mais tous ces services se trouvent placés dans une égalité la plus parfaite dans l'œuvre mystérieuse interne de Dieu. C'est lui qui fait croître la semence de la parole dans la vie. Et on ne peut pas rivaliser avec ça. Planter, on sait comment faire. Arroser aussi, mais faire croître. Alors on peut comprendre le mécanisme, mais on ne sait pas faire. Et donc devant cette œuvre qui appartient à Dieu seul, tous les serviteurs, tous les services sont irrémédiablement égaux. Alors pourquoi prendre parti? Pourquoi faire des parties? Pourquoi avoir des partis pris devant cette œuvre irremplaçable, mystérieuse et magnifique de Dieu? Cela n'aurait pas de sens. En quelque sorte, Paul coupe l'herbe sous les pieds de tous les esprits partisans. Et c'est pas un nivellement par le bas, c'est une égalité en Christ. Tous les serviteurs, tous les services pour un seul maître, Jésus-Christ. Pour répondre à cet esprit partisan de Corinthe, Paul met l'accent sur l'égalité, mais plus encore sur l'unité. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et il va le dire un peu plus tard, Christ est-il divisé? Non, Christ est unique, Christ ne peut pas être coupé en quatre et aucun parti ne peut se l'approprier et c'est Christ est un, nous sommes un avec lui. Tous unis pour former un seul corps. Et cela me rappelle le texte d'Éphésiens 4 qui est inscrit sur l'écran. Il y a un seul corps et un seul esprit, et je lis la suite, de même Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cette fois le mot seul, et il y a un seul Seigneur, une seule espérance. Et il y a trois fois le mot tous, tous unis dans le service du Dieu unique, dans la même espérance, dans la même foi. Laissons tomber les histoires de partis. Dieu est un, nous sommes unis à lui dans son service. Le chant des partisans sonne faux dès le départ. Et puis, il y a une réponse pratique au problème des gens de Corinthe. Et en fait, le passage commence par cette réponse au verset 10. Je vous adresse une recommandation instante. Et le verbe dans l'original se situe entre l'encouragement et l'exhortation. Une recommandation instante. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Paul appuie. Hein. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous, soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Vivez en pleine harmonie, vivez ensemble en pleine harmonie. Et c'est là peut-être, et il faut le noter, que l'encouragement de Paul peut dépasser le cadre de l'Église et concerner tous les groupes humains, en particulier les couples et les familles. L'harmonie, ça se travaille. L'harmonie, ça se désire, ça se travaille. On pense peut-être que tout est acquis parce que on est ensemble dans les familles, dans les couples et qu'on s'aime. Oui, mais non. L'unité de départ doit être travaillée, sans cesse remise sur le métier. On a parlé d'accro, de déchirure ou d'accrochage pour définir ce qui se passait à Corinthe. Eh bien, travailler à l'unité, pour eux comme pour nous, peut-être que ça revient à ne pas trop tirer sur les tissus ou en cas d'accro, tout de suite intervenir pour ne pas que cet accro en provoque un autre et un autre et que toute cette série d'accros provoque une déchirure tout le tissu dans tout le tissu puis affaiblir tout le tissu. Et je relève en particulier le verbe qui est traduit par soyez parfaitement unis qui veut dire à la base ajustés. Soyez parfaitement ajustés. Comme les pièces d'un ensemble, ou remettre un état. On utilise le même verbe pour parler de Jacques et Jean qui réparent leur filet. Soyez parfaitement unis, vivez ensemble en parfaite harmonie, réparez vos filets, ajustez-vous les uns aux autres. Travaillez à votre ajustement pour que l'ensemble soit solide. Réparez les accrocs et les déchirures comme on répare les filets. Et cet ajustement va loin, il va jusque dans la façon de penser et dans les convictions. Et ça, c'est tout le défi de l'unité pour les goûts et les couleurs. Il n'y a en général pas de problème, chacun reconnaît assez facilement que c'est relatif et que c'est subjectif, mais dans mes convictions, dans mes façons de penser, là, je vais avoir plus de mal à m'ajuster aux convictions et aux pensées de l'autre. Et le travail pour l'harmonie est un travail en profondeur qui me remet en question dans les choses très intérieures qui sont les convictions et les façons de penser. Et le travail pour l'unité, ça ne s'apparente pas à un raccommodage, à du superficiel, c'est de la haute couture, c'est de l'ajustement en profondeur. Et il faut passer par là pour vivre cette unité, harmonie à laquelle Dieu nous appelle dans l'Église, dans le couple, dans notre famille, dans tout groupe humain en fait. Il y a quelques années, il y a plusieurs dizaines d'années, on a, Yvonne et moi, accompagné un couple d'amis belges. Nous les connaissions depuis longtemps. J'avais été son moniteur de colonie. Un couple en difficulté, et on était avec eux au Prat de Lille, dans une station. Et sur les télésièges, Yvonne et moi, on essayait d'écouter et on essayait de raccommoder. Et ils étaient suivis par un psychologue, par un conseiller conjugal à Bruxelles, et ils commençaient tous les deux un travail en profondeur. Et le conseiller conjugal parlait justement d'ajustement, un travail d'ajustement pour trouver la pleine harmonie. Et il n'avait pas fait ce travail auparavant, ou il avait peut-être laissé de côté. L'harmonie, dans tous les groupes humains, ça se travaille. L'ajustement, il faut y penser. N'attendons pas les crises pour travailler à l'unité et à l'harmonie. Alors comment faire pratiquement? Deux petites idées. Y penser. Y penser à l'unité. Que l'unité ou l'harmonie soit l'objet de vos pensées, que ce qui est beau, ce qui est noble, que ce qui est élevé soit l'objet de vos pensées. L'unité est une belle chose. Et il faut y penser parce que déjà, y penser, c'est déjà y travailler, pardon. Prendre la main de l'autre. Penser à l'unité. Et puis, j'ajouterai aussi penser aux autres. Pour travailler à l'unité, à l'harmonie, il faut faire ce décentrement dont on parle beaucoup ici et penser aux autres. Et de le faire en suivant l'exemple de Jésus-Christ qui a eu l'humilité, prendre l'exemple de son humilité, de sa capacité qu'il a eue de se mettre à la place de l'autre, à rechercher l'intérêt de l'autre. Et il y a ce fameux texte de Philippiens 2 que j'aimerais lire maintenant, un texte qui me gêne terriblement. Et on va le lire ensemble, et je crois qu'il va vous gêner. Mais en même temps, qui m'inspire terriblement aussi, qui me gêne terriblement et qui m'inspire terriblement. Et c'est encore Paul qui parle. Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, ou tendez au même but. Jusque-là, ça va. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Là, ça fait un peu plus mal. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition de serviteur. Oui, prendre la condition de serviteur, penser aux autres, regarder aux intérêts des autres. Et l'exemple vient d'en haut. Que nous puissions vivre dans l'harmonie, dans tous les groupes dans lesquels nous appartenons, auxquels nous appartenons. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Nous voulons vivre l'unité.